Ça fait plusieurs mois que j'apporte, semaine après semaine, des réflexions sur cette lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Romains. Donc voilà en fait la 20e prédication ce matin, déjà, sur les Romains. Et donc nous sommes arrivés seulement au chapitre 5. C'est tellement riche. Alors, un petit résumé de ce qu'on a vu déjà. Paul écrit cette lettre à l'église de Rome. Donc, il n'y avait encore pas mis les pieds. Donc, il écrit à des personnes, il connaissait quelques personnes dans cette église, mais donc il écrit et il a décidé de leur exposer l'essentiel de la foi chrétienne. Et donc, on peut dire en deux phrases pour les chapitres 1 à 4. D'abord, cela veut dire que, avec une seule phrase, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il a fait toute une analyse pour dire que personne n'est à la hauteur de ce que Dieu voulait. Donc, le péché, ça veut dire je veux être autonome, je fais mes propres choix. Tout le monde, tout le monde. Et la deuxième chose qu'il a dit, mais Dieu est bon et pardonne à ceux qui lui demandent de pardonner leurs mauvaises actions, mauvaises pensées, etc. Et donc, et cela tout à fait gratuitement. Et c'est le sens même de ce mot grâce. Grâce, la grâce veut dire tout ce que Dieu nous donne gratuitement. Et maintenant, à partir du chapitre 5, il essaie de tirer un certain nombre de conséquences. Si je vois par exemple le verset 11, on est arrivé jusqu'au chapitre 5 et le verset 11, il dit, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc la première chose qui en découle de cette grâce de Dieu, c'est que nous sommes réconciliés avec Dieu, comme des amis qui se seraient brouillés en quelque sorte, et maintenant il y a la réconciliation. Ce qui fait qu'on peut avoir une relation avec Dieu sans que le péché vienne interférer en quelque sorte cette relation, parce que nous sommes pardonnés. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous venons adorer Dieu et adorer Jésus-Christ lors de notre culte. C'est pour cela que nous prenons la scène ensemble. Et j'étais frappé en fait par quelque chose en préparant ce message, quelque chose que je n'avais jamais vu. À quel point dans ces chapitres 5, 6, 7 et 8 des Romains, que Paul met en avant une expression que je viens de lire d'ailleurs au verset 11, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là, en quelque sorte, si je veux le dire avec des mots simples, pour fêter notre héros, pour adorer Dieu parce qu'il a envoyé son Fils, notre Seigneur, le Maître, le Boss, le Patron, celui qui peut nous dire ce que nous avons à faire dans la vie. Et à qui il faut demander pardon quand on ne le fait pas. Et donc, cette expression, notre Seigneur Jésus-Christ, on la retrouve à plusieurs reprises. Je pense qu'on peut passer là. Voilà. Nous avons dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et puis nous avons cette expression, notre Seigneur Jésus-Christ, au verset 11, que nous retrouvons pardon, à la fin du chapitre 5, la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. À la fin du chapitre 6, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. À la fin du chapitre 7, verset 24, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et à la fin du chapitre 8, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Manifestons Jésus-Christ, notre Seigneur. Chaque chapitre termine avec ça. Franchement, je ne l'avais jamais vu. Je suis tombé dessus cette semaine et ça m'a surpris, en fait. Qui met en avant tellement que tout l'évangile, toute notre espérance passe par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, quelle est la suite de ce développement? Donc, j'ai dit que la première chose qui découle de la mort de Jésus pour nous pécheurs, c'est la réconciliation avec Dieu. Donc, nous devenons en quelque sorte ses enfants, la guerre est terminée, la rébellion est terminée, on rend les armes, si on veut, de la rébellion, pour dire « maintenant je veux vivre comme Dieu le veut ». Et il me pardonne. Et la deuxième chose qui en découle, c'est que Dieu règle le problème en quelque sorte de la mort. Ce n'est pas parce que nous ne mourrons pas, chacun de nous, mais que nous n'avons pas à craindre la mort, parce que nous n'avons pas à craindre le jugement. Et c'est ça le sens de ce chapitre 5, 12 à 20 à 21. C'est un texte assez compliqué, j'avoue. Je pense que de tout ce qu'on a vu dans les Romains, c'est peut-être le texte presque le plus compliqué. Et ce qui n'aide pas, je ne sais pas si dans votre Bible vous avez ça, à la fin du verset 12, il y a un tiret, c'est comme une parenthèse, parce qu'il commence une phrase qui ne termine qu'au verset 18. C'est la fin du tiret. Dans ma Bible, j'ai des tirets pour les deux. Peut-être dans d'autres Bibles, il y a des parenthèses. Mais Paul, là, il s'est compliqué un peu la vie parce qu'il a fait une grande parenthèse au milieu de sa phrase. Mais nous allons quand même le lire et je pense que nous allons trouver quand même le moyen de bien comprendre. J'ai essayé de simplifier un petit peu pour qu'on comprenne bien le sens de ces versets. Mais je vais quand même le lire d'abord. Donc, Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Je vais sauter au verset 18 maintenant. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et maintenant, je vais lire la parenthèse, donc je reviens au verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celle qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Je reviens au verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas le texte le plus facile que nous avons lu dans les Romains. Donc, on va quand même essayer de voir clair dans ce texte, parce qu'il est quand même assez important. Voilà. Donc, il y a un autre texte, donc c'est donc la deuxième lettre de Pierre, qui ajoute en quelque sorte à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc je crois que c'est important, parce que ici, dans ces quelques versets, il va expliquer un peu plus ce que cela veut dire que Jésus est le Sauveur. Mais sauver de quoi? Bon, sauver d'un danger. J'aime bien d'ailleurs même un philosophe qui est en fait athée, Luc Ferry, a lui-même bien défini la chose. Je vais même lire ce qu'il a écrit. parce qu'à un certain moment, il a passé en revue les différentes philosophies et religions, et en disant que le christianisme était le meilleure offre sur le salut, sur le marché, mais il n'arrivait pas à croire. Mais bon, c'était quand même la meilleure offre, c'est lui qui le dit, hein. Et voilà ce qu'il dit. Je vais, donc, c'est dans son livre Apprendre à vivre. Il dit, donc, en parlant comme un jeune, je vais te proposer une autre approche. Elle part de quelque chose de fort simple. L'être humain, à la différence de Dieu, s'il existe, bon, c'est Luc Ferry qui ajoute ça, l'être humain, à la différence de Dieu, s'il existe, est mortel, limité dans l'espace et dans le temps. Mais à la différence des animaux, il est le seul à en être conscient. Okay? Il ne peut donc s'empêcher de s'interroger sur cette situation qui est inquiétante, voire absurde ou insupportable. Et c'est pour cela que l'homme se tourne d'abord vers les religions qui lui promettent le salut. Je voudrais que tu comprennes ce mot, hein, c'est Luc Ferry qui le dit, ce mot salut. Car le plus simple pour commencer à cerner ce qu'est la philosophie, c'est de le situer par rapport au projet religieux. Ouvre donc ton dictionnaire. Bon, c'était avant Internet, hein, parce que maintenant, si on veut chercher le sens de mots, on va sur Internet. Ouvre donc ton dictionnaire et tu verras que le salut désigne d'abord et avant tout le fait d'être sauvé ou d'échapper à un grand danger ou à un grand malheur. Fort bien. Mais à quelle catastrophe, à quel péril les religions prétendent-elles nous faire échapper? Tu connais déjà la réponse. C'est de la mort qu'il s'agit, bien entendu. Donc, Luc Ferry a bien vu que s'il n'y a pas de réponse à cette question-là, à quoi ça sert, en quelque sorte, de venir adorer Dieu? Mais on vient adorer notre héros, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que lui est le sauveur par rapport à ce danger qu'est la mort. D'autant plus que Jésus le dit, nous avons à rendre compte de notre vie devant Dieu à la fin de notre vie. C'est ce qu'on appelle le jugement. Et c'est là où le verset 12 explique le fond, en quelque sorte, de la pensée biblique. Je crois qu'on peut aller plus loin, on va sauver de quoi. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Là, c'est le fondement de la compréhension du comportement humain dans la Bible. Et quand on dit que un seul homme est péché, tout le monde connaît en fait l'histoire de Adam et Ève, comme nos premiers parents qui ont désobéi au seul commandement que Dieu a donné, de ne pas toucher à un arbre de la connaissance du bien et du mal. J'insiste, hein, la Bible ne parle absolument jamais de pomme, hein, donc, la pomme c'est pour les macs, c'est absolument pas pour par rapport à ça, c'est un fruit de la connaissance du bien et du mal, et donc et ils ont désobéi, et Dieu avait dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est vrai qu'ils ne sont pas morts physiquement ce jour-là, mais ils sont morts spirituellement parce que le contact était coupé avec Dieu. Donc le péché est entré dans le monde par un seul homme, et à cause de ce péché, la mort est entrée dans le monde, et cette mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. On a continué à faire comme Adam et chaque être humain, et c'est le résumé que j'avais cité tout à l'heure, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est chez Romains chapitre 3, le verset 23. Donc, dans cette situation, maintenant, Paul va comparer, en fait, ce qui est arrivé par Adam par rapport à ce que Jésus nous apporte. Et on va voir qu'il y a, en fait, cinq comparaisons dans ce texte. Mais il y a quand même un petit peu de répétition. Mais bon, pardon. Mais la répétition, c'est bon pour la pédagogie, donc je pense que Paul le faisait un peu exprès. Donc voilà, toute une suite de comparaisons entre Adam et Jésus. Le premier, donc je me suis permis d'utiliser un peu de couleur. Le rouge, c'est ce qui est mauvais, et le vert, ce qui est bien. Donc le rouge, c'est Adam, et le vert, c'est Jésus. Donc voilà, je suis aussi dans la pédagogie ce matin. Verset 15. Donc on va lire en fait 5 versets qui se suivent. Le verset 15. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme Jésus-Christ ont été abondamment répandus sur beaucoup. Donc, beaucoup, c'est même tous en fait, hein, sont morts spirituellement parce que nous sommes les héritiers de la désobéissance d'Adam. Et chaque être humain y contribue pour sa part. On n'a pas le droit de dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de la pomme ou je ne sais pas quoi. Non, c'est chacun de nous, on a aussi fait le mal. Donc, l'offense d'un seul s'est répandue sur beaucoup. Mais le don de la grâce d'un seul homme, donc Jésus, est aussi s'est répandu sur beaucoup. Et cet épître aux Romains le rend extrêmement clair. Le beaucoup de la deuxième partie sont ceux qui ont cru, qui ont mis leur confiance en Jésus. Et il parle de la grâce de Dieu, le don de la grâce, parce que dans ce contraste, dans cette comparaison, il y a le péché, le mal d'un côté, mais la grâce de Dieu de l'autre. La grâce de Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas. C'est le thème de nos cultes du soir de ce trimestre. Je crois que je l'ai dit la dernière fois. Nous sommes en train de regarder chaque fois où Jésus se met à table dans l'évangile de Luc. Et c'est à plusieurs reprises. Et presque chaque fois, c'est avec des chefs religieux qui voudraient que Jésus dise « Bon, il faut obéir à un certain nombre de lois. » Et Jésus dit chaque fois « Non, c'est la grâce. » Ce ne sont pas les malades, mais ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas ceux qui se croient justes, mais les pécheurs qui ont besoin de Jésus. Bon, c'était une chose qu'on a vue le soir. Donc voilà, la première comparaison, c'est d'une part entre l'offense, mais la gratuité de la réponse en Jésus, la grâce de Dieu pour le pardon. Deuxième chose, donc je passe au verset suivant, le verset 16 que je lis. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Donc il est en train de comparer pour dire une seule offense, un seul péché suffit pour qu'il y ait condamnation. On peut penser que c'est un peu dur, mais l'apôtre Jacques, dans sa lettre, dit la même chose. Il suffit de désobéir à un seul commandement, et on n'est déjà pas bien devant Dieu. Parce qu'on n'est plus pur, on n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Je l'ai souvent dit, qu'on a tous quelque part un petit peu la mentalité du baccalauréat, où on dit « Ah ben j'ai une mauvaise note dans une matière, mais je vais me racheter en ayant une bonne note dans une autre. » Donc, et on dit ben, « Finalement, ok, j'ai fait du mal dans la vie, mais tout ce que Dieu demande, c'est la moyenne. » Et donc, si quelque part, « Ok, j'ai menti là, mais je vais aider une vieille dame à monter dans le bus, ok, j'ai réparé, donc j'aurai la moyenne, et devant Dieu, c'est bon. » Le problème, c'est que la moyenne pour Dieu, c'est 20. Donc, dès qu'on a un seul 19, il n'y a pas moyen d'avoir un 21 pour racheter la faute. Donc, c'est pour ça qu'un seul péché suffit pour qu'il y ait la condamnation. Par contre, le don gratuit, compte, même si on a fait beaucoup, beaucoup de fautes dans sa vie, beaucoup d'offenses, si on demande sincèrement pardon à Dieu. Même le plus mauvais tyran du monde, le plus mauvais dictateur, si vraiment, sincèrement, sur son lit de mort, il demande le pardon, il sera pardonné. Et c'est ça que les pharisiens de l'époque de Jésus n'aimaient pas, parce qu'ils voulaient être parfaits déjà sur la terre. Et c'est pour cela que Jésus a raconté sa parole bonne de l'ouvrier de la dernière heure, qui n'a travaillé qu'une heure, mais quand même, qui a reçu le même salaire que les autres. Donc voilà, ça c'est la deuxième comparaison. La troisième, c'est le verset 17, qui dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ?» Donc, l'offense d'un seul a mené à la mort, et cette mort règne en quelque sorte, hein, parce qu'en loi, personne n'y échappe. Mais par Jésus, on a l'abondance de la grâce. Bon, il y a un petit peu plus dans le verset que ce qui est à l'écran, parce qu'il dit d'abord, il y a le don de la justice. Donc c'est-à-dire que nous qui ne sommes pas justes, Dieu nous donne la justice de Jésus. Et non seulement il y a le parallèle de ce côté-là, ou le contraste, mais le parallèle, la mort a régné par un seul, mais ceux qui ont reçu le don de la justice règnent dans la vie. Donc c'est l'abondance de la grâce, et on peut dire comme Jésus, je suis venu donner la vie, et la vie en abondance. Donc on règne, on est content, parce que finalement, si le christianisme était comme pratiquement toutes les autres religions, et je fais bien cette comparaison, dans toutes les religions, il suffit de dire, j'espère que Dieu va m'accepter, je vais essayer de faire beaucoup de bonnes choses pour essayer de mériter cela. Mais Jésus dit, pas possible, pas possible. L'analyse, c'est nous sommes pécheurs, par contre, quand on croit en lui, on a le pardon entier, et donc on peut régner, en quelque sorte, dans la vie. Le mot régner pour dire qu'on est dans cette vie abondante. Le verset 18, donc, comme je dis, il y a un petit peu de répétition, il dit la même chose de différentes façons. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, de nouveau, une seule offense, c'était la désobéissance d'Adam, qui a mené à la condamnation de tous les hommes, hein, mais avec un petit peu l'étape intermédiaire. Adam a péché, ses descendants, et nous avons péché. Donc, tout être humain est condamnable devant la perfection de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a un seul acte de justice. Et cet acte de justice, c'est la venue de Jésus, sa vie parfaite, et sa mort et sa résurrection. Et c'est pour cela qu'il y a un autre mot qui est écrit dans le verset 18, c'est le mot justification. Justification, c'est un terme juridique qui veut dire déclarer juste. Donc, Dieu nous regarde si nous croyons en Jésus, il nous déclare juste, même si, quel que soit notre passé. Et donc, cela, c'est la possibilité de la vie qui s'étend à tous les hommes, mais avec cette condition qui ne mentionne pas ici, mais qui mentionne ailleurs, que c'est par la foi en lui. Et puis, la cinquième comparaison, c'est le verset 19, donc on continue dans tout cela. « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus, ou qui sont devenus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes. » Donc c'est le terme que j'ai utilisé tout à l'heure. De nouveau, cette comparaison, la désobéissance d'un côté, l'obéissance d'un autre. Et c'est intéressant que dans Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens, il dit que Jésus était obéissant jusqu'à la mort, en fait, jusqu'à la mort sur la croix. Et dans le jardin Gethsémané, Jésus avait prié. Donc, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, et non, finalement, il a accepté, non, il a accepté la mort, la crucifixion. Et donc, voilà cinq comparaisons. Donc, pour simplifier, chaque fois, une seule désobéissance, une seule offense, un seul péché, qui a eu des effets énormes, négatifs, mais un seul homme juste, et la croix, qui a des effets énormes, positifs, pour ceux qui croient en lui. Okay? Donc on peut le résumer comme cela. Juste avant d'apporter une conclusion, peut-être certains ont remarqué que j'ai sauté deux ou trois versets. Et c'est un petit peu comme un sandwich, parce qu'il y a deux versets un peu au début et un verset à la fin qui parle de la loi de Dieu. Et ce sont les versets 13 et 14 et le verset 20. Je lis 13 et 14. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Oh, le péché n'est pas imputé quand il y a un point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Et le verset 20, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pourquoi Paul parle de la loi ici? Je pense qu'il écrivait donc à ses Romains, certains étaient juifs, juifs convertis à Jésus-Christ. Peut-être que quand il était en Israël, les gens aussi pensaient à ça. Il dit, bon, c'est bien beau de parler de Adam et de Jésus, mais est-ce que tu n'as pas sauté Moïse? Parce que finalement, c'est vraiment important pour les Juifs, la loi de Moïse, les 10 commandements, tous les commandements de Dieu que Moïse a apportés. Et Paul, il va en parler un peu en long et en large quand on arrivera au chapitre 7 de cette épître, donc j'anticipe légèrement. Mais ce que Paul dit ici, c'est que certes, la loi n'avait pas encore été donnée à Israël, mais il y avait quand même un commandement. Et le commandement, c'était de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la preuve que c'était une désobéissance, c'est que la mort est venue avant même que la loi apparaisse. Seulement, la loi, quand même, sert à quelque chose, bizarrement. La loi sert à, dans un premier temps, à assurer le contraire de ce que l'on veut. Parce qu'on pourrait penser que la loi existe, et donc, à partir du moment où la loi existe, tout le monde va se soumettre. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Et c'est là où le verset 20 dit que la loi est intervenue pour que l'enfance abonde. Parce que là, quand il y a la loi, et quand on désobéit, on le fait consciemment. Et même l'existence de la loi nous pousse à la faire. Dès qu'on doit interdire d'eux ou défense d'eux, on a un petit réaction, on peut dire, mais pourquoi moi je peux, je vois pas pourquoi je pourrais pas faire ça, bon, etc. Donc ça montre ce péché dans le cœur de l'être humain. Et donc la loi, en quelque sorte, donc comme je dis, j'anticipe un petit peu, encore, voilà, avec ce chapitre 7, où Paul écrit même, je n'ai connu le péché que par la loi. Donc c'est ça qui révèle le mal. Et il avait déjà dit ça au chapitre 3 des Romains. Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais ce n'est pas tout. Et heureusement, Paul a aussi écrit dans les Galates, Galates 3, 24, que la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, pour que nous soyons justifiés par la foi. Donc, le fait que la loi est là, que l'on se sent coupable devant la loi, que l'on sait le fait même que l'on soit conscient que de notre péché à cause de la loi nous pousse en fait à Jésus comme sauveur. Sinon, on pourrait dire, mais je me débrouille pas trop mal, je suis meilleur que les autres, enfin, voilà. Mais la loi nous montre que nous avons besoin du salut, donc d'un sauveur. Et donc, je conclue avec le dernier verset de ce texte que nous avons examiné ce matin. Comme le péché a régné par la mort, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ça la bonne nouvelle. La première partie de la bonne nouvelle, on l'a lu au début de cet exposé, réconcilié avec Dieu. Et la deuxième partie de la bonne nouvelle, c'est que nous avons la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous n'avons pas à craindre le jugement, parce que Jésus a porté nos offenses, nos péchés, lui-même, à notre place, à la croix. Donc, pour citer les paroles très simples de Jésus, dans l'évangile de Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est la suite de la bonne nouvelle, réconcilier avec Dieu et la vie éternelle. Je vais prier avec vous. Prions. Seigneur, je te remercie pour ce texte. Certes, il est compliqué. Tu nous as donné une certaine intelligence pour le comprendre, mais nous voulons te demander encore plus une certaine intelligence spirituelle pour l'appliquer à notre vie. Nous voulons te louer, Jésus, parce que tu es Seigneur et Sauveur, parce que toi seul, tu as réparé en quelque sorte la faute de nos premiers parents, Adam et Ève, et que nous continuons à vivre chacun pour sa part. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. Nous te remercions parce que c'est une réalité. Nous n'avons pas, comme Naaman, à nous plonger cette fois dans le Jourdain ou dans la Seine pour être purs. Nous pouvons simplement mettre notre confiance en toi, sachant que par la mort de Jésus, nos péchés sont pardonnés et nous pouvons avoir la joie de vivre une vie nouvelle en relation avec toi. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle, pour l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. Amen.